Viene el centro, clave, gol.
Après que les poètes ont disparu.
Bravettes et braves, quel plaisir de vous retrouver pour ce podcast 81 Terre. C'est-à-dire que c'est le troisième de la série des 81. Il y en a déjà eu deux, hein, le 81 tout court et le 81 bis. Et à cette occasion, je n'ai pas suivi un peu la tradition, parce que normalement je commence toujours... en vous évoquant la saison qui est liée au numéro du podcast. Et puis on était pris par des tas de choses, je ne sais plus pourquoi. Donc on va revenir aux fondamentaux. Et comme c'est le podcast 81, c'est donc la saison 80-81 qui nous intéresse. On va faire la première division. À l'époque, ça se disait comme ça, hein. Ce n'était pas Ligue 1, c'était première division. C'était la 43e fois qu'il y avait une saison professionnelle de première division. Le tenant du titre était le FC Nantes. Et pour cette saison 80-81, il y a deux petits nouveaux, Auxerre et Tours. Alors, qui va être champion pour la saison 80-81 ? C'est Saint-Étienne, figurez-vous, avec 57 points. Deux petits points d'avance juste sur Nantes, qui en a 55. Et en fait, le titre se joue à l'ultime journée, 38e journée, je m'en souviens, j'étais au stade Geoffroy Guichard pour un match entre Saint-Étienne et Bordeaux, qui n'est pas gagné pour Saint-Étienne, parce que Bordeaux a une bonne équipe et finira d'ailleurs 3e de ce championnat à égalité avec Monaco. Et tiens, à la 5e place, on trouve le PSG. Alors, pour Saint-Étienne, c'est le 10e titre et le dernier. Pour l'instant, manifestement, il faudra attendre un repreneur avec beaucoup, beaucoup d'argent pour que Saint-Étienne gagne son 11e titre un jour. Et il y a peu de rescapés de la grande époque, c'est normal, parce que c'est quelques saisons plus tard quand même. Finale 76, c'est le sommet, mais on peut considérer que la saison 76-77, là encore, il y avait les meilleurs joueurs des Verts. Ça s'est joué à peu de choses avec Liverpool, vous le savez, en quart de finale. Alors, les rescapés de cette grande époque, ils sont au nombre de 4, mais un peu 3 pour ce titre, puisque Ivan Kurkovic, qui est là, ne disputera que 3 matchs. Il perdra vite sa place au profit de Jean Castaneda, qui jouera 35 matchs, puisque Ivan Kurkovic 3. Et les trois vrais rescapés qui ont joué 37 matchs pour l'un, 38 pour l'autre, et 25 pour le troisième, c'est pas 38 non plus, enfin on en est loin, c'est Gérard Janvion, 37 matchs sur 38, Christian Lopez, 38 sur 38, Jacques Santini, donc 25 sur 38. Et toujours l'entraîneur de la grande époque, ça n'a pas bougé, c'est Robert Herbin. Il y a trois petits verts issus du centre de formation. Petits parce qu'ils sont jeunes, soit en expérience, soit en âge. Par exemple, Laurent Paganelli est champion cette saison 80-81. Vous connaissez bien Paganelli, Canal+, tout ça, voilà, on te le souhaite. Donc Laurent, qui était arrivé très jeune de la MJC Avignon, n'a que 18 ans cette saison-là. C'était un monstre de précocité et il a fait une carrière satisfaisante, mais compte tenu de ses grandes qualités, quoi, je veux dire, elle aurait pu être encore plus riche. Niveau précocité, ça va être longtemps le plus jeune joueur à disputer un match de Ligue 1, puisqu'il va entrer au Parc des Princes à la place de Dominique Rocheteau à la mi-temps, donc sous les couleurs de Saint-Étienne, à l'âge de 15 ans, 10 mois et 5 jours. C'est jeune, hein. Après, il faudra qu'il attende un an et demi pour disputer son deuxième match de première division. Encore un petit jeune, mais lui, il a 20 ans, c'est Laurent Rousset. Alors, pour les plus anciens s'en souviennent, forcément, pour les plus jeunes, Laurent Rousset, vous savez, à l'époque, Saint-Étienne, la force de Saint-Étienne, outre le travail qui était effectué ensuite au sein du club, mais c'était notamment grâce à Pierre Garonner. Il y avait un trio qui faisait la différence, chacun dans son secteur, Roger Rocher le président, Robert Herbin l'entraîneur, et donc Pierre Garonner qui était une sorte le directeur général du club stéphanois, qui travaille main dans la main avec Robert Herbin, et qui allait chercher des pépites. À l'époque, les centres de formation, dans le milieu des années 70, n'existaient pas. Mais il prenait des tas de jeunes, mais qui se trouvaient, je ne sais pas moi, à l'ouest de la France, à l'est, dans le sud, dans le nord, etc. Mais il les prenait relativement jeunes, quoi. 15-16 ans, c'est jeune. Et par exemple, Laurent Rousset, ça avait fait beaucoup parler à l'époque, ils lui ont fait signer un contrat de non-sollicitation à l'âge de 13 ans et demi seulement. Bon, c'était quelqu'un qui était très mature, Laurent Rousset, mais vous imaginez, maintenant, dans le football d'aujourd'hui, bon, à 13 ans, le gars n'est pas pro, mais je veux dire, peut-être s'entraîner avec les pros, 13 ans, c'est quand même un petit peu jeune, mais enfin, plus rien ne fait peur aux jeunes. Tu vois, 13 ans et demi, il joue à Mazargues, qui est un club de Marseille, et il est arrivé à Saint-Étienne à 15 ans et demi. Tant et si bien que, malheureusement, il a commencé aussi très très jeune en pro. Et le souci, c'est qu'en même temps, il était en équipe de France cadet, en équipe de France junior, blablabla. Et à un moment, il a eu une mauvaise blessure, je crois que c'était en junior contre l'Allemagne, au genou. Et il s'en est jamais vraiment remis. Il a fait une carrière professionnelle. Mais c'est marrant, j'en discutais encore avec Osvaldo Piazza la dernière fois que j'étais à Buenos Aires. Et puis on parlait de foot, comme ça, de certaines époques et tout, et il me disait avec son accent inimitable, « Mais Didier !» Bon, enfin, je ne vais pas vous le faire, je le fais mal, mais il me disait, « Mais Laurent Rousset, à l'âge de 15 ans et demi, 16 ans, il s'entraînait avec nous, mais footballistiquement, c'était un phénomène. Et il était déjà costaud, quoi. Il était avant-centre, hein, Laurent Rousset. Laurent Paganelli, l'autre Laurent, était ailier droit. Bref, Laurent est champion en 80-81. Il a 20 ans. Et le troisième, plus âgé, mais formé à Saint-Étienne, mais il avait été prêté avec son compère Félix Lacuesta à Bastia, et avec Bastia, il va faire cette fameuse saison avec la finale de la Coupe de l'UEFA contre le PSV Eindhoven en 78. Il est de retour après pour la saison 78-79, donc il a déjà 24 ans, l'air de rien. C'est Jean-François Larios. Donc il y a les rescapés, trois qui sortent du centre de formation, deux très jeunes, un peu moins. Et Saint-Étienne a changé un peu sa ligne de conduite et ça a beaucoup fait parler. Dans la grande équipe des Verts de Saint-Étienne, ils sont tous formés à Saint-Étienne, sauf les deux étrangers, Osvaldo Piazza et Ivan Kurkovic, le gardien de but. Sinon, ils sont tous formés à Saint-Étienne. C'est fou. C'était bon, une autre époque. La Masia de Barcelone, si vous voulez, eh ben, elle se passait à Saint-Étienne à cette époque-là. Et là, le président Rocher, sentant qu'il va y avoir un trou au niveau des générations, que maintenant le football a évolué, etc. et tout, il va faire venir Michel Platini pour la saison 79-80. Et Platini est déjà le meilleur joueur français, il est international depuis 3 ans, il a fait la Coupe du Monde 78, machin, on sait déjà que c'est un phénomène et tout, donc il fait le choix de prendre Platini. Et il prend en plus Johnny Rep, saison 79-80 aussi, qui est un phénomène depuis longtemps, puisqu'il était titulaire avec l'Ajax en 73, avec les Pays-Bas, finale de la Coupe du Monde, etc. Et donc, en faisant venir deux étoiles, tu vois, de ce niveau-là, ça veut dire que ben voilà, tu changes d'optique, quoi. Ça ne devient pas une politique de star, il y en a que deux qui arrivent, mais quand même, c'est pas rien. Et avec Robert Herbin, du coup, qui était contre ces arrivées, et pourtant, ça renforce ton équipe quand même, ben ça va être le début de la fin avec Roger Rocher, puisqu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, mais c'est Rocher qui commande, et donc il impose. Enfin, il impose aujourd'hui. Si on te disait dans le football actuel l'équivalent de Platini, je te fais venir, moi, cher entraîneur, l'équivalent d'un Platini et d'un Johnny Rep, de l'époque, tu vois, l'entraîneur, il irait brûler 3 cierges et il t'embrasserait 25 000 fois, et il se mettrait, tu vois, il te ferait des salamalecs à n'en plus finir. Putain, tu m'amènes Platini, Rep, machin. Mais Robert Herbin, non, parce que, voilà, c'était autre chose. Alors, On va terminer avec les meilleurs buteurs de cette saison, 80-81. C'est Delio Onis. Il n'est plus à Monaco, mais il claque toujours. Il est à Tours, Tours qui vient donc de monter. Hein, je vous avais dit, c'était l'un des promus. C'est Onis le meilleur buteur avec 24 buts. Un but plus loin, on trouve Uwe Krause, qui était un avant-centre allemand, qui était à Laval. Ensuite, avec 21 buts, Sima Nikolic, qui était à l'avant-centre de Lyon. Arrive Michel Platini en quatrième position avec 20 buts. Cinquième position, ils sont deux. Bernard Lacombe, qui n'est plus à Lyon, mais avant-centre de Bordeaux. Et Victor Trocero, avant-centre de Monaco, 18 buts chacun. Et ensuite, des noms très connus encore, enfin, pour les gens d'un certain âge, bien sûr. À la septième place, ils sont trois, chacun avec 16 buts. Le Polonais Andrzej Zarmak, avant-centre d'Auxerre. Bernard Zénier, qui n'est plus à Metz, formé à Metz, mais qui était à Nancy. Et Dominique Rocheteau, qui n'est plus à Saint-Etienne, puisqu'il est passé au PSG. Bref, il n'y a que des avant-centres, sauf Michel Platini, qui est un numéro 10, et Bernard Zénier, qui est un ailier gauche. Voilà, on a bien fait le tour pour cette saison 80-81 du championnat, et on va en rester là. Dans les 80, les podcasts 80 à venir, on parlera de la Coupe de France, des trois Coupes d'Europe, Ballon d'Or, des matchs de l'équipe de France cette saison-là. Et puis aussi, on ira faire un tour en Amérique du Sud, parce que 81, Maradona est champion avec Boca, il est tout jeune avec Boca Junior, et Zico avec une équipe fantastique de Flamengo, où tu avais Junior, tu vois, qui tu avais encore, Zico, bien évidemment, enfin des phénomènes. Flamengo sera champion du Brésil, mais gagnera aussi la Copa Libertadores. Voilà, sorte de championnat du monde des clubs, mais ça se jouait sur un match au Japon. Et nous allons attaquer, donc, je vous rappelle le titre de ce podcast, et je ne vous l'avais peut-être pas donné d'ailleurs, vous allez le découvrir. Le retour des poètes, je dis des poètes, parce que voilà, je suis un peu en l'air, parce qu'il y a un point d'interrogation. Je l'espère de tout cœur, mais ça sent bon, on va voir tout ça maintenant.
Longtemps, après que les poètes ont disparu.
Et oui, longtemps après que les poètes ont disparu, et même si leurs arabesques, leurs caresses du ballon et tout le tralala courent encore dans les rues, ils ont disparu. Mais ils reviennent. Attention, ils reviennent. En 4-5 jours, on a pu voir France-Allemagne et Espagne-Brésil. Alors vous avez peut-être vu France-Chili, moi il se trouve que j'étais obligé de voir Espagne-Brésil, et je ne m'en plains pas, puisque je le commentais pour la chaîne L'Équipe, et que je me suis régalé par bien des points, bien des aspects. Et je suis tombé sur des joueurs que j'avais déjà vus, mais par bribes, comme ça, je pense, alors deux d'entre eux, ce sont les Allemands, Wirtz et Moussiala. J'ai vu un peu le Bayern, les Leverkusen, etc. Moussiala, je l'ai vu un petit peu avec le Bayern, mais pas régulièrement, si vous voulez. Et puis, le troisième, alors lui, je l'avais encore moins vu que les deux autres. Il y avait des petits bouts de match, on disait, attention, c'est un phénomène, etc. Et tout, on sentait bien que, bon, oui, il y avait quelque chose de particulier, d'autant plus que le troisième, il a 16 ans. Et je parle évidemment de l'Espagnol, Lamine Yamal. Donc, en 4-5 jours, tu tombes sur ces trois gosses, quoi. Et là, tu te dis que dans ce football qui, pour toutes les raisons que l'on sait, est de plus en plus aseptisé, robotisé, standardisé, et qui ressemble comme deux gouttes d'eau dans ces schémas tactiques un peu partout à travers le monde, quoi. Voilà, tous les matchs sont un peu les mêmes, sur le même rythme, les mêmes gestes, les mêmes schémas, donc je dis tactique, avec plus ou moins de talent. C'est sûr que si tu vois Manchester City, c'est pas que quand tu vois, bon, ou le Real Madrid, ou d'autres équipes. Mais en 4-5 jours, voir ces trois joueurs-là, je trouve que ça amène un vent de fraîcheur et le retour d'une certaine poésie dans le football. Et ça fait du bien, quoi. Tu vois, Florian Wirtz, bon, il a 20 ans. En plus, il sort d'une blessure très grave, quoi. Ligament croisé, c'est pas rien. Il revient à un niveau formidable. Jamal Musiala, il vient d'avoir tout juste 21 ans. Et Lamine Yamal, je vous l'ai dit, et vous le savez, il a 16 ans. Donc, c'est incroyable, quoi. Et puis il y en a des tas d'autres jeunes, tu vois, déjà dans ce Brésil-Espagne. Il y a quand même deux autres phénomènes dans un autre genre. Les attaquants Vinicius Junior et Rodrigo, attaquants du Real Madrid. Et le troisième phénomène, parce que aussi il a 17 ans, donc après on verra la suite, quoi. Hendrick, qui venait de marquer à Wembley, qui entre en deuxième mi-temps. C'était un peu fouillis dans son jeu, quoi. Il est un peu dans un mode bulldozer, mais enfin, il marque encore un but, tu vois, en reculant, reprise du gauche, c'est pas si évident. Et puis il y a les autres, quoi. Il y a, je sais pas moi, Bellingham, tu vois, dans les 13 jeunes étoiles, même si on sait depuis un certain temps, avec le Borussia Dortmund, l'équipe d'Angleterre, etc., et tout, avec le Real, il a vraiment pris son envol. Et Bellingham, il a 20 ans, quoi. Il a 20 ans. Et il y en a encore des tas d'autres. Je ne vais pas tous vous les citer, mais on sent qu'il y a une pépinière là, incroyable, de joueurs de 18, 19, 20, 21 ans qui débarquent. Et donc, il y a mal 16 ans. Et chez certains d'entre eux, il y a une finesse dans le jeu, une élégance, une variété dans les dribbles, etc. Et voilà, ça fait du bien, quoi. C'est revigorant, car cette forme de poésie, et donc ces poètes, quelque part, quoi. On croyait qu'ils avaient plus ou moins disparu.
Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu.
Et finalement, on pensait que, il n'y a pas si longtemps encore, que pour succéder au duel Messi-Ronaldo, qui a duré tant d'hiver et de printemps, finalement, on nous avait vendu le duo Mbappé-Hollande, qui allait dominer le football dans les 5 à 7, 8 prochaines années, quoi. C'était la grande rivalité, les deux étaient au-dessus du lot, voilà, après Ronaldo-Messi, eh bien, vous allez avoir Mbappé-Hollande. Et désolé, enfin, en ce qui me concerne, et ça n'enlève rien aux qualités immenses des deux joueurs en question, mais ce sont surtout des joueurs de leur époque, on dira. Quand on a une certaine expérience du football, sur des décennies, Mbappé-Hollande, on dit chapeau bas, sur certaines actions, ça peut faire vibrer, mais c'est surtout leur qualité physique hors norme, quoi, qui leur donne un certain avantage sur les autres, pas leur technique à proprement parler, quoi. Et donc, c'est pas là, sur leur poésie, entre guillemets, on y revient, qui font réellement la différence. Et alors là, Mbappé-Hollande, pour dominer le foot de ces prochaines années, sur ce que je vois ces derniers temps, même si ça demande confirmation, évidemment, ça ne me paraît pas si certain. Et pour le football, je pense que c'est une bonne chose, quoi. Alors, ils en feront sans doute partie, hein, Mbappé et Haaland, dans les 5, 7, 8 prochaines années. Mais ils vont avoir affaire à une sacrée concurrence qu'on n'imaginait pas forcément pour tout le monde. Enfin, tu vois, le truc qui ressortait, c'est Mbappé-Haaland. Parce que la République des stats aussi, quoi. Tu vois, et forcément, les deux ont des stats impressionnantes et ils sont encore très, très jeunes. Même si, Mbappé, 25 ans, Haaland, un petit peu moins. Mais enfin, ça laisse encore une marge de progression déjà, normalement, pour l'un et pour l'autre. Et puis, pas mal de temps pour dominer leur sujet, quoi. Une petite parenthèse. Et c'est vrai que, c'était un peu dommage de voir la France contre l'Allemagne comme ça, surclassée sur un match. Après, c'est la vérité d'un match, hein. Là aussi, ça demande confirmation. Ça ne veut pas dire que la Mannschaft est plus forte que l'équipe de France. Ça serait plutôt l'inverse sur un tournoi, comme on l'imagine. Mais avec ces gosses, tu vois, comme Wirtz et Musiala, emmenés par un cross royal, un Havertz intelligent dans le jeu, désolé que cette équipe-là domine le match, avec ses intentions de jeu aussi, bah perso, même si je suis français, je trouve que c'est une bonne chose pour le football, quoi. Et puis, ça te permet aussi de te rendre compte à quel point un Griezmann a pu manquer à l'équipe de France en la circonstance. Et ça aussi, quelque part, c'est une bonne nouvelle. Même si, de vous à moi, je ne suis pas certain qu'à lui seul, il aurait pu inverser la tendance. Mais au moins, un peu la contrecarrer, tu vois, il aurait permis de limiter la casse et qui sait. Alors, là, une petite parenthèse, c'est que la mauvaise nouvelle pour la France, c'est que, curieusement, nous n'avons pas un autre joueur en France du profil de Griezmann, même s'il était un peu moins bon, tu vois, mais au moins ce profil-là, et son absence, alors évidemment, il n'a pas raté un match sur 84 consécutivement, alors tu réalisais pas forcément le problème, mais qu'on n'en ait pas un qui est un peu le profil, ni actuellement, ni dans un futur proche, il semblerait, c'est peut-être pas bon signe. Sur les 7-8 dernières années, on avait Pogba, on avait Benzema, même s'il était un peu plus haut sur le terrain par rapport à l'équipe de France, mais enfin, vous voyez, dans cette forme de technique, de poésie, de ce que vous voulez, et donc Griezmann, on avait 3, et Griezmann, il va pas être éternel. Bon, enfin, on verra bien. Ne perdons pas le fil de nos poètes, et pour en revenir, par exemple, à ce Lamine Yamal, c'est ce que j'ai vu lors de cette Espagne-Brésil. Bon, c'est un match amical, il n'avait peut-être pas l'adversaire direct du siècle ou spécialement inspiré, mais il y a des choses qui ne trompent pas, quoi, tu vois. Et le gosse, il a 16 ans. Alors même s'il en avait 24-25, ça resterait époustouflant. 16 ans, et 16 ans, il a cette maturité dans le jeu, cette aisance, ce talent, cette volonté d'aller toujours vers l'avant, même s'il peut prendre appui sur quelqu'un derrière, mais y a ce truc, un peu comme Messi. Alors évidemment, tu ne peux pas comparer un joueur à Messi, mais s'il se rapproche d'un joueur quand même, et en plus, il a un QI football fantastique, quoi. Il sait alterner les situations. Il se montre très, très altruiste, il a une vision tout de suite périphérique, tu vois, de la situation, et derrière des dribbles, il peut te faire des passes, tout simplement, et tout. Des joueurs surdoués comme ça, et qui malheureusement n'ont pas eu la carrière qu'on pouvait imaginer par rapport à leur talent, nous, Français, on pense immédiatement à Ben Arfa. Mais à thème, dans son jeu, bon, déjà, il y avait parfois un manque de constance, on verra avec Yamal, hein, il est très jeune, mais il était quand même moins altruiste, et quand il partait dans ses dribbles fulgurants, il avait quand même le nez dans le guidon. C'est pas facile, mais il pouvait être collectif aussi. Mais je pense que, sur ce que je vois, ce que j'ai vu, il a peut-être réalisé le match de sa vie aussi, mais je crois pas. J'ai appelé évidemment des confrères espagnols pour qu'ils m'en parlent et qu'ils m'en parlent encore. Et puis ce côté imprévisible chez lui, bon, à thème, il avait ce côté imprévisible, mais il y avait une forme de puissance chez Atem aussi, ce qui est une force. Et chez Yamal, il y a ce côté relâché, quoi. Tu as l'impression que, bon, il est là, comme s'il était dans le jardin avec ses potes et tout, et j'adore ça. Et vous savez à qui ça me fait penser ? Ben, ça me fait penser à Waddle, qui était l'un de mes joueurs, enfin, à l'époque préféré. Et voilà, Waddle, il était là, quoi. Tu sentais que c'était le jeu pour le jeu, avec l'efficacité. C'était pas gratuit non plus, même si de temps en temps, il jouait avec le public, tout ça et tout, et on va pas s'en plaindre. Mais il y avait une forme de plaisir. Il était pas tendu quand il dribblait, tu vois. Il était bon, pom, 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 tu vois, il était relâché. Et je pensais pas que le talent d'un Waddle, si immense soit-il, aurait pu s'exprimer facilement aujourd'hui. À mon sens, le talent doit toujours et peut toujours s'exprimer. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne voyais pas forcément des entraîneurs ou des systèmes de jeu, etc., permettant à ce talent de donner vraiment sa pleine mesure, quoi. Et là, manifestement, alors j'ai tweeté sur Yamal suite à ce match, et voyons un peu certaines réactions de mes followers. Colonel Atti, c'est là où vous intervenez. Oh, j'attendais, j'ai des starting blocks. Alors, par exemple, il y a @phil, putain, il y a des chiffres là, hein, 52, 65, 66, 57. Il nous dit: je n'ai jamais vu un jeune joueur aussi juste techniquement et dans les choix. Et voilà, c'est ce que je vous explique un peu, quoi, parce que 16 ans, tu vois. Et alors, lui, ce n'est pas du pur instinct, mais de l'intelligence avant tout, quel crack, purée, tout ça et tout. Alors, ouais, je mets un bémol. Je trouve que, oui, il y a cette intelligence, je suis d'accord, Phil Dev 225, mais dans les dribbles, il y a toujours une part d'instinct, quoi. Il y a, voilà, le côté situationnel, tu sens que tu peux faire ça, tu as l'intelligence de comprendre si ton adversaire direct, il a déjà une couverture, la position de tes partenaires, tout ça et tout, mais dans tes gestes, et c'est ça qui est beau, quoi, c'est que là, pour le coup, tu les maîtrises, mais tu as une telle palette que ton instinct peut partir dans certaines improvisations contrôlées, d'accord, mais il y a pas que de l'intelligence, quoi. Alors, derrière, il y a beaucoup de gens, et je suis bien d'accord, attention, évidemment, 16 ans, c'est jeune, il peut se passer tellement de choses derrière, voilà, il va grandir, il va découvrir d'autres plaisirs, il va fonder une famille, maintenant qu'il est superstar, est-ce qu'il sera suffisamment protégé de certains requins ici et là, bon, par exemple, alors, l'agent qu'il a, mais enfin après, bon, c'est un bon agent, il sait ce qu'il fait, mais faut savoir que Quand je dis requin, je pense pas à ces requins-là. Je pense à des pique-assiettes qui vont te faire perdre un peu le fil et etc. Mais là, alors requin, tu penses toujours aux agents. Et petite parenthèse, Jorge Mendes, donc le fameux agent de Ronaldo et de tant de grands joueurs. En fait, le manager de Yamal, c'était Ivan de la Peña. Vous vous souvenez, Ivan de la Peña, le petit prodige de Barcelone, mais qui n'avait pas trop réussi quand Van Gaal est arrivé. Il l'avait écarté, il est parti à la Lazio, il a fait un petit tour même à l'OM. Et finalement, il a pu exprimer quand même ses grandes qualités avec l'Espagnol de Barcelone. Mais après, il a enchaîné les blessures, tout ça. On le surnommait « Little Buddha ». Voilà, c'est ça. Vous imaginez, vous avez ces petits gling-gling-gling-gling et Little Buddha. Donc, c'était lui, son agent, et finalement, Mendes qui a flairé le truc, il a pris Yamal et il n'est pas allé avec le dos de la cuillère parce qu'il a donné 3 millions d'euros à son père. Donc, vous imaginez, c'est des gens modestes. Et 3 millions d'euros, bon, bah, ils changent d'agent, hein, y a pas de problème. Si Van de la Peña ne peut pas s'aligner sur les 3 millions d'euros, bon, c'est un détail. Mais il y a des tas de choses qui 16 ans, bon, on en reparlera ces prochaines années. Et j'ai fait un tweet en disant: surtout pourvu que les dieux du football le protègent. Parce que ça, c'est la grande crainte. La grande crainte, c'est la blessure, et avec Barcelone, le club où évolue donc Lamine Yamal, on a des mauvaises expériences ces derniers temps avec déjà Ansu Fati, qu'on nous annonçait comme un phénomène, qui avait des qualités exceptionnelles. Simplement, il a eu des blessures au genou très graves, et après, derrière, il a enchaîné des problèmes musculaires, etc. En veux-tu, en voilà. Et alors qu'il est, bon, il est prêté à Brighton, quoi, tu vois. Et on se demande si on retrouvera le Fatih qu'on imaginait comme un super crack à venir sur une décennie, quoi, les blessures, parce que jouer, on a l'exemple avec Pedri, peu cher. Pedri, la fameuse année où il a enchaîné Euro, Jeux Olympiques, et où on l'a mis très tôt, à l'âge de 16, 17 ans, etc., et tout, 18 ans, titulaire avec le Barça. Ben après, les blessures se sont accumulées. Il a fait une saison à plus de 80 matchs, ou je ne sais plus combien, c'était complètement fou. Et même là encore, un peu moins de 4 ans après, puisque arrivent les prochains JO, etc., et ben il multiplie les blessures. Gavi, lui, il vient de se faire les ligaments croisés, il a eu des problèmes musculaires aussi et tout. Donc, on se dit, je ne dis pas de le mettre dans le formol, quoi, Yamal, mais il va falloir à tout prix le protéger. Parce que là, avec l'équipe d'Espagne, donc il est titulaire, évidemment, pour l'Euro, il sera là. S'il enchaîne derrière les Jeux Olympiques, on a déjà calculé que ça veut dire que le gosse de 16 ans, et il aura encore 16 ans, puisqu'il aura 17 ans en juillet, il aura accumulé 60... Potentiellement, il peut faire 69 matchs. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible, parce que ça serait une catastrophe. Et il y a... Alors, Xavi le gère très bien. En ce moment, il le met titulaire, il le met un peu plus des bouts de match, un peu plus long, etc. et tout. Il sait ça. Et puis, il a l'expérience de Gavi et Pedri. Mais... il ira avec l'Espagne à l'Euro, et il est tellement fort que je ne sais pas si là il va le gérer comme Xavi, c'est sur un championnat, par exemple le fameux dernier match contre l'Atlético Madrid où Barcelone a réalisé un très grand match, l'a emporté 3-0, il était remplaçant. Mais pour l'Euro, ça serait criminel, entre guillemets, de lui faire enchaîner les deux compétitions à son âge. 16 ans, tu es encore en pleine croissance pour un garçon. Et il y a une règle, autant en France, vous savez, les clubs, comme ce n'est pas une date FIFA, ils peuvent dire « Ah ben non, on le libère pas ». Mais en Espagne, à vérifier, mais j'ai vu pas mal de choses comme ça, et je me suis renseigné, il semblerait que ça soit le cas, il y a une loi, une règle, appelez ça comme vous voulez, qui fait que pour les Jeux Olympiques, les clubs sont obligés de libérer leurs joueurs s'ils sont sélectionnés. C'est pas comme Rennes, vous voyez, récemment, Maurice, le directeur technique du club, a dit « Bon, on va pas se faire déshabiller, désolé, si vous en voulez quatre, parce que potentiellement, il pourrait y en avoir quatre, je crois, vous aurez pas les quatre, peut-être un, deux. » Mais là, ça veut dire que la direction de Barcelone, Xavi, tout ça, il serait impuissant s'il le sélectionne pour derrière pour les JO, et s'il le met titulaire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Mais là, ça serait de vous à moi une catastrophe. Bon, on verra bien, mais pour le football, un gâchis considérable. Et pour le Barça aussi. Et tiens, un petit mot quand même sur la Masia, qui est le nom qui concerne le centre de formation Blaugrana, donc de Barcelone, où Cruyff, Johan, donc avait mis tout ça en place et avait fait un travail formidable au-delà de créer une équipe compétitive qui allait gagner, bon, les Coupes d'Europe, tout ça, Coupe des Coupes, ce qu'on appelait la Dream Team à son époque. C'est vrai qu'il y a eu quand même un trou générationnel, quoi. Messi a fait son premier match en 2005, et c'est l'un des derniers qui arrivait, et dans le même secteur. Bon, Xavi jouait déjà, mais les autres, les Iniesta, Busquets, tout ça, c'était sensiblement au même moment ou un peu avant. Et là, tu vois, 2005, 2006, et là, on est en 2024. Et dans l'intervalle, il a fallu attendre aux alentours de 2021 pour qu'il y ait des Pedri, Gavi, des gars qui sortent du club, quoi, qui ont ce style de jeu, qui coule dans leurs veines. Et dans l'intervalle, tu vois, entre 2005, 2006 et 2021, ça fait 15-16 ans, quoi, il n'y en avait pas beaucoup. Quand je parle de tout générationnel, on avait beaucoup cru en Bojan, mais bon, il a pas fait grand-chose. Il y a eu Cucurella, bon, qui, comme il y avait la concurrence de Jordi Alba, il est parti en Angleterre. Il y a Alcantara, lui aussi, peu cher, les problèmes musculaires et les blessures, donc voilà, qui est un super joueur. Mais bon, Sergi Roberto, qui reste encore là, qui est un peu le symbole, mais voilà, c'était pas très riche, quoi, en pépites par rapport à la génération d'avant. Et maintenant, avec ce qui arrive, parce que tu as aussi un milieu offensif qui sera très fort et qui joue déjà, Fermín López, le petit jeune, la défense centrale qu'on a vu contre Naples, Pau Cubarsí, qui est aussi avec l'équipe d'Espagne, qui est très jeune, Hector Fort, le latéral gauche, donc Yamal, tout ça et tout, là c'est reparti. Et c'est pas innocent non plus, parce que il faut savoir que le patron de la Masia, c'est des anciens de la Dream Team, donc de l'époque de Cruyff, avec donc ce souci de former les joueurs d'une certaine manière. Le patron, c'est Alessanco, bon, qui lui était un défenseur un peu rustre, un peu truc, mais il a quand même évidemment ce sang cruéfien, on dira. Le chef des scouts dans le monde, c'est Sergi, vous vous souvenez, le petit arrière-gauche qui joue aussi en équipe d'Espagne et tout. Le chef des scouts d'Espagne et format machin, c'est Baquero. Et Jordi Cruyff, fils de Johan donc, avait encore un regard assez prononcé au sein de la Masia et tout, jusqu'à son départ l'an passé. Donc il y a pas de mystère, tu vois, au niveau de la transmission. Je continue un petit peu les tweets. Il y a @Riquelme, mais ça ne s'écrit pas comme Riquelme. Et il me précise, alors là c'était lié au commentaire, du match, excellente remarque sur la dictature entre guillemets des stats, car Lamine Yamal donc n'a pas particulièrement noirci la feuille, mais impliqué sur les trois buts. Et oui, c'est ça aussi, cette dictature des stats qui est très trompeuse, même si la passe décisive ou les buts, tu les as marqués, mais il faut voir dans quelles conditions, il faut voir combien d'occasions il t'a fallu peut-être pour marquer le but, il faut voir si dans les buts il y en a combien sur pénalty, je vous l'ai déjà précisé. La passe décisive, qu'est-ce qu'il appelle passe décisive? Sur un des buts de l'équipe de France contre le Chili, moi je lis, tiens, Mbappé a fait sa xème passe décisive en équipe de France. J'ai vu l'action, un peu après. Bah, il fait une passe à Fofana, mais la passe, enfin, je veux dire, c'est une passe sur 2 mètres, quoi. Il n'a pas dribblé X joueur, il n'a pas fait de décalage, il fait une passe. L'autre, après, il te fait un dribble extérieur, et il frappe, et le ballon est détourné, et ça rentre. Si ça, c'est une passe décisive, et effectivement, Yamal, qui a eu une influence conséquente sur les 3 buts, parce que c'est à la suite d'une série de dribbles qui provoque le premier pénalty pour l'Espagne, pénalty un peu généreux au demeurant, bon truc. Sur la deuxième, c'est lui qui fait la passe à Olmo, mais encore là aussi, Olmo, il va te faire un chef-d'œuvre de petit pont, truc, sur Beraldo, sur Boba, et marqué derrière, mais enfin, c'est quand même lui qui fait la passe, mais bon, c'est un peu une passe comme celle de... Enfin, il est impliqué par rapport à la contre-attaque et ce qu'il fait avant, quand même. Et sur la troisième, enfin, sur le troisième but espagnol, c'est lui qui fait un extérieur pied gauche pour Carvajal, lancé à vitesse grand V, et Beraldo arrive en retard. Il y a pénalty, mais ce n'est pas considéré comme passe décisive, puisqu'il y a pénalty, tu vois. Mais enfin, il est quand même dans l'action. Donc, quelque part, tu peux dire, bon, il a bien joué le truc. Les stats, sur les 3 buts, quelque part, sur les 3 buts, ben, il n'est pas mentionné réellement, quoi, tu vois. Donc, voilà, Riquelme nous dit que par rapport à ce commentaire, c'était une bonne remarque, parce que, bon, la dictature des stats, etc., etc. Ah, bah tiens, @, j'avais mis de côté, what the fuck, on priera tous les dieux pour qu'il soit épargné par les graves blessures et qu'il ait cette envie d'aller toujours plus loin, oui. Lui, les blessures, et puis aller plus loin. Est-ce qu'à un moment, on se souvient, Bojan, il a fait une dépression. Prenons par rapport à Mbappé, quand même. Mbappé a commencé, dans la deuxième partie de saison où il est titulaire avec l'AS Monaco, où il prend la place de Germain, la saison 2016-2017, quand Monaco est champion et va en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Là, il devient titulaire, sinon il était là sans être là, des petits bouts, etc. Il a 18 ans, Mbappé. Yamal, il a commencé à 15 ans, 9 mois et 16 jours, et rendez-vous compte, il est international à 16 ans et 57 jours. Donc c'est le plus jeune international de l'histoire de l'équipe d'Espagne, machin. Mais 16 ans et 57 jours, à deux mois près, il est international à 15 ans. Bon, et 364 jours, d'accord, enfin c'est quand même 15 ans, quoi. C'est jeune, ça fait peur. Et Mbappé, qui était très fin, il a pris des kilos et du muscle et de la puissance, mais je trouve que il a bien travaillé parce qu'il n'a pas perdu pour autant, peut-être en vélocité, mais compensé par la puissance. Enfin, je veux dire, et il n'a pas eu beaucoup de blessures, Mbappé. De temps en temps, un peu la cheville, un petit côté. Mais donc, c'est quelqu'un, que ce soit au niveau hygiène de vie ou dans son travail, il l'a très bien fait. Est-ce que Yamal le fera aussi bien? En plus, par rapport au succès, la gloire, etc., les sollicitations, Mbappé, on sait qu'il est hyper mature, mais quoi qu'on en dise, aussi, il est aussi très bien encadré au niveau de sa cellule familiale, etc., et trucs. Yamal, je ne sais pas, enfin je sais que les parents sont divorcés depuis un bon bout de temps, mais est-ce qu'ils ne vont pas devenir fous, ou est-ce qu'ils garderont la tête sur les épaules, est-ce qu'ils vont le protéger? Voilà, il y a des tas de paramètres qui entrent en compte, mais il est tellement différent, et il y a tellement ce type de joueur qui arrive à sortir et à s'exprimer, puisque je vous en ai cité d'autres, Mais lui, c'est... Voilà, quoi. C'est beau, quoi. Et je me dis, tiens, si je faisais encore des magazines ou des documentaires assez longs sur des équipes, des joueurs, des sports ou quoi, un gars comme j'aime toujours la musique, vous savez mélanger la musique, un gars comme Yamal, compte tenu de ses origines... marocaine, et il a ce toucher de balle, tu vois, comme Zidane, ses origines algériennes, c'est toucher de balle des enfants de la Casbah, voilà, qui jouent avec des bouts de tissu, des ballons improvisés, enfin, etc. et tout. Il y a, c'est beau, cette touche de balle. Alors, je mettrai peut-être, j'ai pensé au Clash, tu vois, Rock de Casbah, tu vois. Hein? Ça vous dit quelque chose, ça? Donc là, on mettrait des images de Yamal qui arrive au stade, tu vois, tranquille. En plus, il a ce visage poupon, il fait vraiment 16 ans, quoi, tu vois. Et là, tu mettrais les spectateurs qui commencent un peu à s'affoler, quoi. Vous devez laisser tomber ce raga, tout ça. Il dansait le boogie, machin. Bon, commence à s'échauffer, il sort, tu vois. Il y a cette musique derrière, tu vois, la Cadillac, machin. Hein. Il allait tranquillement à la ville, le Mezzine était debout sur la calandre, machin. Et après, il commence à jouer. Sur ses dribbles, tu mets ça. Hey, I like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. Enfin voilà, bon, c'est une idée, quoi. Allez, on arrête. Ou alors plus tendre, plus romantique, plus, tu vois, par rapport à ses dribbles chaloupés et son côté princier, quelque part, sa princesse étant le ballon, quoi. Donc cet amour du prince avec le ballon. Je pense aussi à la chanson de George Benson, George Ben, quoi. le Brésilien Taj Mahal. Taj Mahal, Taj Mahal, d'été, 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 Taj Mahal. Parce que Taj Mahal, Yamal, Mahal, tu vois, quelque part, bon, vous savez ce qu'est le Taj Mahal, forcément, quoi. Enfin, j'imagine. C'est donc un mausolée, quoi. Un tombeau qui est d'une hauteur de plus de 70 mètres, qui se trouve, bon, quelque part en Inde, et ce qui fait partie du patrimoine mondial. Et il faut que, à tout prix, que ce Lamine Yamal fasse partie aussi du patrimoine mondial du football, quoi, de l'histoire du football, qui est visité chaque année par des millions et des millions de gens, quoi. Et c'est un monument qui a été construit par le prince, machin, une fois que sa princesse est partie à la naissance. Elle donnait naissance quand même à son 14e enfant. C'est du boulot, quoi. Mais bon, là, ça s'est mal passé. Et c'est quelque chose de fantastique, quoi. Le Taj Mahal, tu vois, on peut dire même que c'est une contraction un peu, enfin, un truc avec le nom de la princesse qui était Mumtaz Mahal, tu vois, Taj Mahal, Mumtaz Mahal, un truc et tout, au bord de la rivière. Ce mausolée de marbre blanc, tu vois, un truc... machin. Allez, on va l'écouter, et là, vous imaginez qu'il y a des dribbles de notre enfant, voilà, il a des origines indiennes, peut-être, sans doute, le Taj Mahal, Taj Mahal, tu vois, tu dis Taj Mahal, quoi, je veux dire, voilà, je vous le traduis en même temps. Ce fut la plus jolie histoire d'amour qu'on m'a raconté, et maintenant je vais vous la conter, je vais vous en parler, de l'amour du prince Shah Jahan pour la princesse Mumtaz Mahal, de l'amour du prince Shah Jahan pour la princesse Mumtaz Mahal. Deke, 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 Taj Mahal. Et là, on va changer un peu. Taj Yamal, Taj Mahal, Taj Yamal. Ah oui. Deke, 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 deke,
deke.
Ah, ce fut la plus jolie histoire d'amour qu'on m'a racontée, et maintenant je vais vous la conter, de l'amour du prince Lamine Yamal pour la princesse, le ballon de football, de l'amour du prince Lamine Yamal pour la pelota, pour la princesse pelota. Deke, 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 deke. Taj Mahal, Taj Yamal, Taj Mahal, Taj Yamal. Oh, 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 deke, 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 c'est magnifique, deke, 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 il t'emporte, les dribbles chaloupés, avec le talon, avec la semelle, les feintes de corps, Chris Waddell, Lamine Yamal, oh, 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 les enfants, ah, qu'on le protège et qu'on construit, qu'on érige et plus tard son tombeau de footballeur, parce que c'est toujours une petite mort, mais le plus tard possible. Voilà, et ben on a fait le tour de la question. Je peux vous dire que ça fait du bien. Tu vois, ce cercle des poètes disparus et qui semble encore là, longtemps, longtemps, Et général, vous en pensez quoi ? Oh, Didier, Didier, Didier. La mine, il y a mal. Et les autres, mais j'ai bien aimé ce rapprochement avec Taj Mahal, très bon, à George Benson. Que de soirée pasta avec George Benson. George Ben, parce qu'il avait changé son nom, parce que, oui, je sais, il y avait un guitariste du nom de George Benson, déjà très connu, donc il s'est fait appeler George Ben. Beaucoup de souvenirs. C'est lui qui avait fait aussi, vous savez, George Ben, la chanson « Fille maravilla, lila la la ». Ah oui, 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 bien sûr, il était supporter de Flamengo, et Maravilla était l'avant-centre de Flamengo. Je vois que vous connaissez vos classiques, c'est beau. Bon, allez, on se quitte, et si vous la chantiez un peu ? Hein ? Ah d'accord, très bien. Longtemps, 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 après que les poètes ont disparu, leur gris-gris court encore dans les rues. Longue vie aux braves!
Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues.
Mira le centre, clave, gol!